Alors, je voudrais insister sur deux idées aujourd'hui. La première, c'est qu'il y a, enfin, mathématiquement, en tout cas, il y a vraiment un seul problème qu'on comprend, c'est le problème des deux corps. Celui-ci, c'est l'intégré, on connaît les solutions, les ellipses, les hyperboles, les paraboles. C'est déjà pas un problème simple, on peut déjà dire des choses très subtiles sur le problème des deux corps. Mais essentiellement, une des choses que je voudrais dire, c'est que les seules méthodes vraiment globales dont on dispose d'études du problème des n corps en général, en particulier du problème des trois corps, sont des comparaisons au problème des deux corps. Je vais en montrer un ou deux exemples. On compare un problème général, un problème de deux corps, et on obtient des théorèmes du type si la taille d'un système devient trop petite, alors il y a un corps qui s'échappe à l'infini, ou des choses comme ça. Bon. La deuxième idée dont je voudrais parler, c'est celle de symétrie, l'intégrale première, solutions particulières qui sont liées aux symétries. Donc ça, c'est disons plus dans l'optique de Tom, l'idée que quand on a bien une application ou bien un système dynamique, un objet, la première chose à regarder, c'est ses singularités. C'est ça qui va organiser le paysage général. Et alors, il se trouve que le problème des trois corps ou des n corps lui-même n'a pas de singularité, mais une fois qu'on tient compte des symétries, en particulier de la symétrie de rotation, on obtient un système en passant en quotient avec des singularités, en faisant ce qu'on appelle la réduction des symétries. Et ces singularités sont des mouvements très particuliers, qu'on appelle les mouvements d'équilibre relatif, ou plus généralement les mouvements homographiques. Et pour montrer le peu de choses qu'on connaît sur le problème des n-corps en général, alors il se trouve que miraculeusement, grâce au travail de Lehr et surtout de Lagrange à la fin du XVIIIe siècle, on comprend complètement ces singularités dans le cas du problème des trois corps. Et à partir de quatre corps, à une exception près, qui est le cas de quatre masses égales, grâce aux travaux d'Alain Albouy, eh bien, on n'y comprend rien. C'est-à-dire qu'on a certains exemples, mais on est incapable, sinon numériquement pour 4 ou 5 corps, et plus du tout pour beaucoup plus de corps, même de décrire les singularités du champ de vecteurs qui correspond au problème des n corps. C'est dire si on connaît peu de choses. D'ailleurs, c'est un des problèmes, j'en parlerai quand j'arriverai là, un des problèmes que Smale a mis à son programme des problèmes pour le 21e siècle, qui est la détermination de ce qu'on appelle les configurations centrales et la finitude du nombre de configurations centrales pour un nombre donné de corps, et ça correspond exactement à l'étude des singularités du problème. Et c'est quelque chose sur lequel on ne sait pratiquement rien, en particulier pas s'il y en a un nombre fini ou non. C'est vraiment très peu de choses. Alors, donc, sur quoi je vais me concentrer, d'une part sur ces égalités ou inégalités qui sont classiques et qui décrivent la comparaison d'un problème général de trois corps à un corps, le problème des deux corps, et d'autre part à ces solutions particulières qui proviennent des symétries du système et qu'on peut qualifier de les plus simples possibles, des solutions les plus simples possibles du problème des trois corps, et dans l'idée que, justement, ces solutions, ça permet de faire plusieurs choses. Ça permet d'une part de faire la théorie des perturbations, et c'est tout le côté astronomie, de trouver des mouvements quasi-périodiques et d'approcher, par exemple, les mouvements de la Lune, les mouvements du système planétaire, mais qui permettent aussi de bâtir une sorte de squelette de la dynamique globale du problème et faire ce qu'on appelle de la dynamique symbolique à partir de ces quelques îlots qu'on comprend dans le problème. Alors, dans la dernière partie de l'exposé, j'étendrai un petit peu cette idée de symétrie à une symétrie qu'on a moins l'habitude de considérer et qui dernièrement a donné des résultats assez spectaculaires, qui est on connaît d'habitude la symétrie par isométrie, par translation, par rotation. On connaît moins déjà celle par homothétie, dont je parlerai un petit peu, qui vient de l'homogénéité du potentiel et qui est liée aux collisions. Et il y a une dernière symétrie qui est une symétrie discrète, qui est la symétrie qui provient de l'invariance du Lagrangien ou du Hamiltonien du problème par permutation des corps lorsque les corps ont même masse. Et il se trouve que cette symétrie, elle aussi, conduit à des solutions particulièrement simples à partir desquelles on peut essayer de faire des perturbations. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le plan de ce que je veux raconter. Alors maintenant, je vais commencer par quand même écrire ce que c'est que les équations du problème des trois corps. Alors, le problème des trois corps, ça peut être dans le plan, ça peut être dans l'espace, ça peut être... En fait, on a intérêt même, d'un point de vue purement mathématique et algébrique, à considérer le problème des trois corps dans R4, et pas seulement dans R3, pour une raison toute bête, c'est que, en quelque sorte, le problème dans R3 ou dans R2, et c'est une des sources de difficulté, est un problème contraint. C'est-à-dire, si vous prenez, bon, vous pouvez fixer le centre de gravité, si vous prenez un triangle, eh bien, ça vous engendre un plan. Et si maintenant vous prenez le triangle formé par les vitesses, en supposant que le centre de gravité est à l'origine, vous avez un autre plan, et deux plans dans R3, c'est dépendant, ça s'intersecte suivant une droite, et ça ne devient indépendant que dans R4. Autrement dit, le seul fait de dire que vous êtes dans R3, c'est déjà une contrainte sur le problème, et c'est une des sources de difficulté, en particulier de la réduction du problème des n corps. C'est que le problème des n corps, sa réduction n'est facile à comprendre que si on est dans R puissance 2 fois n moins 1. Donc je ne parlerai pas de ça vraiment aujourd'hui, mais il faut se rendre compte de ça, et en un sens, Lagrange s'était déjà rendu compte de ça en 1772 dans son grand essai sur le problème des trois corps, parce qu'il travaille avec des distances mutuelles, et en fait, il y a une des intégrales premières qu'écrit Lagrange qui est difficile à comprendre la première fois qu'on lit son papier. Et quand on réfléchit, on s'aperçoit que cette intégrale première, elle dit simplement qu'on est dans R3 et pas dans R4. Bon, c'est juste un commentaire pour E. Alors j'écris les équations. J'ai trois masses que je repère à partir d'une origine par des vecteurs R1, R2, R3. J'ai la masse M1, la masse M2, la masse M3. Et j'ai les équations que tout le monde connaît, N1, R1 seconde, j'écrirai comme les mécaniciens un point, ça veut dire la dérivée par rapport au temps, égale, eh bien, M1, M2, R2 moins R1, c'est une abstraction vers R2 sur R2 moins R1 en norme au cube, plus M1, M3, R3 moins R1. Sur R3 moins R1 au cube. Donc voilà, le problème des trois corps, c'est ça. On veut déterminer les solutions de système d'équations du second ordre. Donc on peut bien sûr ramener un système d'équations du premier ordre. Bon, mais alors si on a déjà fait un tout petit peu d'équations différentielles dans sa vie, on sait en gros qu'une équation différentielle dans le plan, on y comprend quelque chose, et qu'une équation différentielle dans l'espace à trois dimensions, on n'y comprend déjà plus rien globalement. C'est déjà un objet infiniment plus compliqué, des attracteurs étranges, des choses compliquées. Eh bien, on va regarder un petit peu les dimensions ici, juste pour avoir une idée du problème. Alors, je vais regarder, disons, le problème dans R2 et le problème dans R3. Alors, vous savez bien que quand on a une équation du second ordre, pour définir ce qu'on appelle l'espace des phases, il faut se donner à la fois les trois positions et les trois vitesses à un instant donné, et ça définit une solution. Alors si je suis dans R2, les trois positions, ça fait 3 fois 2 nombre réel, et puis les trois vitesses, ça en fait aussi 2, donc c'est 3 fois 4. Donc on est dans un espace à 12 dimensions. Si on est dans l'espace, c'est pire, ça fait 3 fois 6, hein, 3 coordonnées de position, 3 coordonnées de vitesse, ça fait 18. Donc il faut déjà être un peu fou pour penser qu'on va pouvoir dire quelque chose de général sur une équation différentielle en dimension 12 ou 18. Alors c'est pas tout à fait, je triche un petit peu, parce qu'on sait bien qu'il y a justement les invariances du problème, à la fois par translation, par rotation, qui vont permettre de réduire la dimension, mais quand même, faisons-le. Si on tient compte de l'invariance galiléenne, enfin le fait que le problème est invariant par, disons, par translation, par exemple, on appelle ça, eh bien, on sait bien que on peut faire ce qu'on appelle la réduction des translations, passer au quotient par les translations, parce que tout, le problème ne dépend que des différences ici, et ça revient à fixer, par exemple, le centre de gravité. Alors, supposons qu'on fixe le centre de gravité à l'origine, c'est-à-dire qu'on se donne des équations sigma de Mi, Ri, si vous voulez, ça vient du fait qu'on voit tout de suite que sigma de Mi Ri seconde égale 0 en additionnant ces équations de I égale 1 à 3, et donc le centre de gravité a un mouvement rectiligne uniforme, et donc en choisissant proprement un repère galiléen, on peut toujours le fixer. Donc, on peut supposer que sigma de Mi Ri égale 0 et que sigma de Mi Ri point égale 0. Bon, ben ça revient à supprimer un corps, en gros. Parce que c'est autant d'équations que les positions et les vitesses d'un corps. Donc, en fait, là, maintenant, on en est à 2 fois 4. C'est-à-dire dimension 8. Et ici, on est à 2 fois 6, c'est-à-dire dimension 12. Bon, alors on sait d'autre part qu'à cause de l'invariance temporelle, l'invariance par translation dans le temps, le fait que les équations sont des équations autonomes, ne dépendent pas du temps, on a l'énergie qui est conservée, donc H égale constant, et donc ça fait une dimension de moins, on peut se placer sur cette hypersurface en fixant l'énergie, ça fait 7 ici, et ici ça fait 11. Et puis il y a le moment cinétique qui vient de l'invariance par rotation, qui est sigma de Mi, Ri extérieur, Ri point. Donc on peut assimiler par choix d'une orientation d'espace ou bien un nombre réel quand on est dans R2, ou bien un nombre, ou bien un vecteur quand on est dans R3. Et en fait, à partir de R4, il faut bien lui donner sa vraie nature, qui est d'être un bivecteur. Et en tout cas, si je suis dans le plan, ben, ça me donne... Ça me permet, si je fixe le moment cinétique, je l'appellerai C en général, ça me permet de gagner une dimension. Et en fait, ça me permet de gagner un petit peu plus, parce qu'une fois que j'ai fixé le moment cinétique, on sait bien que le problème est invariant par rotation autour du moment cinétique. Je peux encore passer au quotient par les rotations, et donc en fait, je gagne deux dimensions. Donc ici, j'arrive à 7. Une fois que je fixe C et que je passe au quotient par les rotations, j'arrive à 7 moins 2 égale 5. Et puis ici, alors là j'ai trois composantes du moment cinétique, mais c'est pareil, une fois que je fixe le moment cinétique, je peux passer au quotient par les rotations, donc en fait je gagne quatre dimensions. Alors pour les spécialistes, on sait bien qu'on ne gagne pas le double de dimensions, simplement parce que les intégrales premières qui sont les composantes du moment cinétique ne commutent pas, il faut garder l'algèbre de Lie, et ce qu'on gagne vraiment c'est 4, donc j'ai 11 moins 4 égale 7. Et là on retrouve, Lagrange savait déjà ça, Lagrange a effectuer le premier, la réduction du problème des trois corps, dans cet article extraordinaire de 1772, que je recommande vraiment à tout le monde de regarder. Pour moi, c'est un des plus beaux articles de mathématiques que je connaisse. Essai sur le problème des trois corps. Et il arrive effectivement à cette équation. Donc voilà, on a un champ de vecteurs dans un espace qui a une topologie compliquée déjà, de dimension 7. Et il s'agit de comprendre les solutions. Alors, on peut se placer dans le plan, ça fait 5, mais en fait, c'est pas beaucoup mieux. 5, c'est quand même déjà très grand pour les équations différentielles. Alors, donc ça, c'était juste pour vous effrayer un peu. Et maintenant, je vais essayer de mettre en place... bon, les mécaniciens aiment bien garder les équations sous cette forme, les mathématiciens, en général, n'aiment pas. C'est un peu compliqué, comme ça. Donc, il y a un moyen d'écrire ces équations d'une manière plus jolie, qui remonte essentiellement à Lagrange. Bon, ça que les mécaniciens utilisent aussi, c'est avec le potentiel. Mais il y a encore un tout petit pas de plus que font les mathématiciens, qui est de supprimer les masses, en quelque sorte, dans ces équations, parce que les masses, c'est embêtant, et de mettre les masses du côté d'une métrique sur l'espace de configuration. Donc, je vais expliquer ça rapidement, parce que c'est agréable de pouvoir penser à ces équations en ces termes. Donc, je crois que je vais effacer ça. Donc, maintenant, je vais réécrire les équations du problème. Alors, en mathématiques, dès qu'on a une équation du second ordre, on s'empresse de la transformer, enfin, en tout cas, quand on est géomètre et qu'on fait des systèmes dynamiques, on s'empresse de la transformer en un système d'équations du premier ordre, en introduisant comme variable, justement, les vitesses. Bon, les mécaniciens font ça aussi, bien sûr. Et donc on introduit à la fois l'espace de configuration. L'espace de configuration, c'est l'espace, je vais l'appeler qui chapeau, qui est l'ensemble, je les appellerai X, c'est des triplets R1, R2, R3. Et pour faire la réduction des translations de la façon la plus simple possible, je ferai ce que j'ai dit tout à l'heure, je supposerai que le centre de masse est fixé à l'origine. Et en plus, que deux masses ne sont pas au même endroit, R i différent de R j, ça c'est le chapeau. Si j'enlève le chapeau, ça veut dire que j'oublie le fait qu'il ne doit pas y avoir de collision. Donc quand deux masses sont au même endroit, on appelle ça une collision. Alors bien sûr, ce sont des masses ponctuelles, et ça on sait bien depuis Newton, en fait, depuis le scolium, j'ai oublié son numéro, c'est une des premières choses que démontre Newton, c'est que le potentiel d'une sphère homogène, où la densité a une révolution sphérique, à l'extérieur, est la même que celle d'un point matériel où toute la masse serait concentrée en ce point. Donc en tout cas, à l'extérieur des corps supposés et avoir une symétrie de rotation, ça n'est pas stupide que de considérer des points matériels. Alors bien sûr, ça le devient si on regarde vraiment le problème des collisions, mais il se trouve que mathématiquement, c'est toujours cette idée de regarder ce qui se passe aux singularités. C'est très important de comprendre ce qui se passe au voisinage des collisions. Et en particulier au voisinage des collisions triples, il se passe des phénomènes infiniment plus riches et plus intéressants que ce qui se passe au voisinage des collisions doubles. J'en dirai un tout petit mot. Donc ça, c'est l'espace de configuration. Et puis l'espace des phases, c'est simplement le tangent de l'espace de configuration. Ici, c'est simplement le produit de qui chapeau par qui, c'est-à-dire que les vitesses, elles n'ont pas raison d'être... La vitesse VI n'a pas raison d'être différente de la vitesse VJ, donc ça va être l'ensemble des couples XY, où X est un ensemble de positions, R1, R2, R3, tels que sigma de Ni RI égale 0, et les RI sont différents de RJ, et Y égale, alors de temps en temps je les appellerai R1 point, R2 point, R3 point, les vitesses, ou V1, V2, V3, et avec la même condition, sigma de Ni RI point égale 0, mais pas la condition d'éviter les collisions de vitesse. Donc voilà ce que c'est que l'espace des configurations et l'espace des phases. Et maintenant, il se trouve que sur l'espace des configurations, il y a un produit scalaire naturel, qui est le produit scalaire des masses, qui donne une métrique. Et ce produit scalaire, il est très facile à écrire, c'est que donc x prime x seconde, hein, si je prends deux configurations, r prime 1, r prime 2, r prime 3, et r seconde 1, r seconde 2, r seconde 3, eh bien, ce que j'appelle leur produit scalaire, c'est sigma de i égale 1 à 3, et bien sûr ça marche pour n, hein, de mi fois le produit scalaire dans l'espace euclidien où se passe le problème, des r prime i, r seconde i, produit scalaire dans E. C'est l'air usuel dans l'espace R3 euclidien, par exemple. Donc ça me définit un produit scalaire sur les configurations. Et c'est ce MI qui va nous simplifier la vie, parce que quand on prend le gradient pour cette métrique, c'est-à-dire le vecteur qui a la propriété que quand je fais mon produit scalaire avec ce vecteur, j'obtiens la dérivée d'une fonction, eh bien, le gradient a construit dans la métrique un facteur MI. Alors maintenant, je peux commencer à écrire les équations. Ces équations-là, je vais quand même les laisser tant que je n'ai pas réécrit ce qui les remplace. Eh bien, on introduit bien sûr le potentiel. Alors attention, ça, c'est l'opposé pour moi de l'énergie potentielle. Ça, c'est-à-dire, ça sera positif. À moins V, où V est l'énergie potentielle, et c'est sigma I plus petit que J de, je vais l'écrire explicitement, c'est M1, M2 sur R1 moins R2 plus, il n'y a que des plus, hein, M2, M3 sur R2 moins R3 plus M3 M1 sur R3 moins R1, fonction potentielle, opposée de l'énergie potentielle. Et vous regardez ces équations, c'est trois équations du second ordre, où il faudrait, bien sûr, j'ai écrit la première, mais bien sûr, il y a les deux autres, hein, avec M1, M2, R2 secondes et M3, R3 secondes, par permutation circulaire, hein, bien sûr, il ne faut pas les oublier. Et ces équations s'écrivent toutes sous la forme x seconde égale gradient de U de x, où le gradient, hein, vous voyez que ça, c'est une fonction sur l'espace de configuration, qui ne dépend que de R1, R2, R3, et vous prenez le gradient pour la métrique, pour ce produit scalaire, hein, et simplement vous apercevez que ça vous supprime le facteur m1. Bien sûr, ces équations sont toujours simplifiées par m1, ça c'est bien connu, c'est pour ça que le problème restreint où une des masses est nulle a un sens, mais en plus ça va vous supprimer les masses qui sont ici, hein, à cause du fait qu'elles sont mises dans la métrique. Donc voilà, c'est quand même plus agréable mathématiquement de penser aux équations de Newton sous cette forme. Donc ça, c'est la première chose. Voilà ce que c'est que les équations. Et on va voir que cette écriture est très très efficace quand on veut travailler. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous écrire par exemple l'identité de Lagrange-Jacobi. Ça devient une évidence dans cette écriture. La caractérisation des configurations centrales, c'est quelque chose qui se fait en une ligne une fois qu'on a compris que l'équation s'écrit comme ça. En fait, c'est vraiment quelque chose de très efficace sur le plan du calcul et donc sur le plan conceptuel, parce que ça rassemble vraiment ces équations sous une forme optimale. Donc maintenant je les efface, je vais vous les voir. Alors en fait, quand je vous ai fait la réduction en fixant le centre de masse à l'origine, c'est pas quelque chose de très élégant, c'est pas quelque chose de très efficace non plus sur le plan conceptuel quand on veut comprendre cette réduction. La véritable façon de travailler, c'est de passer au quotient par les translations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait systématiquement avec Alain Alboui dans un article à Inventiones il y a quelques temps. Je vous donnerai un site internet où vous pourrez trouver un certain nombre d'articles. Mais pour ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est équivalent, on peut supposer qu'on a fixé le centre de masse. Bon, alors maintenant je vais introduire 5 fonctions importantes définies sur l'espace des phases et qui sont vraiment les fonctions avec lesquelles on va travailler. Ce sont des fonctions qui sont à la fois invariantes par translation et par rotation. Les rotations agissant, si vous avez 3 vecteurs et des 3 vitesses, eh bien vous faites agir une rotation de l'espace, par exemple, comme une rotation rigide de toute cette configuration position-vitesse. Ça agit diagonalement sur qui chapeau croit qui, je ne vais pas écrire cette action. Et les fonctions sont les suivantes. Alors, je les appelle I, J, K, les 3 premières, sont simplement les invariants de l'action des rotations. Donc peut-être que je fais juste un dessin. Si vous avez une rotation, appelons-la grand O, qui agit sur R3, donc une matrice orthogonale, vous avez vos 3 R1, R2, R3, et vous avez des vitesses que je peux représenter comme ça, V3, V2, V1, et vous faites agir la rotation en faisant tourner toute cette configuration. Donc l'action sur x, y, c'est ox, oy, et ox, or1, r2, r3, et c'est simplement or1, or2, or3, tout tourne de façon solidaire. Donc les fonctions que je vais décrire ici sont toutes invariantes, à la fois par ces translations et par ces rotations. Ces rotations ne sont pas forcément orientées d'ailleurs, hein, ça peut être une symétrie. Alors I, ben, je vais toujours introduire cette métrique, c'est xx, c'est-à-dire c'est la norme de x au carré pour la métrique des masses. J c'est xy et k c'est yy. Donc c'est les invariants ordinaires de rotation, donc ce sont des fonctions de xy. Ben, la première ne dépend pas de y, et la deuxième et la dernière ne dépend pas de x. Enfin, sont les fonctions, les positions et les vitesses de nos trois corps, d'un point dans l'espace des phases. Alors on va les interpréter un petit peu, ces fonctions, parce que c'est important de les comprendre. C'est vraiment les fonctions de base de l'analyse globale du problème des n corps. Pour le moment, tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de 3, il n'y a pas un rôle spécial, hein, vous pouvez faire les mêmes formules avec n corps. avec deux en particulier, on le fera tout de suite. Alors I, qu'est-ce que c'est? Si je regarde la formule de mon produit scalaire, qui est ici, c'est simplement sigma de I égale 1 à 3 de MI RI carré. Alors ça, les gens connaissent bien, c'est le moment d'inertie de la configuration des trois corps par rapport à l'origine qui est supposée être le centre de gravité. Donc ça, c'est le moment d'inertie. Et d'après une identité classique de Leibniz, puisque sigma de MI RI est supposé être égal à 0, ça s'écrit encore. C'est quelque chose qui est évidemment invariant par rotation, mais aussi par translation. Et ça, on le voit beaucoup mieux si on l'écrit sous la forme suivante. Si on l'écrit comme Leibniz, sous la forme 1 sur M. M, ça sera toujours la somme des masses. Les masses sont supposées positives, bien sûr. 1 sur M, sigma de I plus petit que J, des MJ, RI moins RJ au carré. C'est bien connu que on peut écrire le moment d'inertie en fonction des distances mutuelles, sous la forme M1, M2, R1, 2 carré. J'appellerai souvent RJ égale RI moins RJ. Donc ça fera M1, 1 sur la somme des masses fois M1, M2, R1, 2 carré, plus M2, M3, R2, 3 carré, plus M3, M1, R3, 1 carré. Donc ça, c'est le moment d'inertie par rapport à l'origine. Donc ça mesure quoi? Ça mesure la taille du système. Et c'est grand si au moins une des distances RIJ est grande. Alors ça va exactement dans le sens contraire de U. U, ça mesure aussi la taille du système dans un sens, mais ça mesure les petites tailles. U devient très grand si un des RIJ devient petit. Donc il y a une sorte de dualité, d'ailleurs, qu'on retrouve très fortement quand on étudie les collisions et les mouvements paraboliques. Il y a vraiment une dualité entre U et I. On va la revoir un peu mieux tout de suite. J, qu'est-ce que c'est? Si vous interprétez Y comme la vitesse à un instant donné qu'a la configuration X, c'est simplement 1 demi de la dérivée de I. Donc c'est la variation de la taille, la variation du moment d'inertie avec le temps. Donc ça, c'est si 1 demi de I point. Pourquoi? Parce que dériver un produit scalaire, c'est xy plus yx, la dérivée, c'est y et la dérivée de x. Vous voyez l'efficacité de cette écriture, il n'y a pas à traîner des masses et à se tromper dans les coefficients. K, qu'est-ce que c'est? K, c'est clair, c'est 1 demi de l'énergie cinétique. Qu'est-ce que c'est? C'est sigma de I égale 1 à 3 de mi RI point carré. Donc ça, on sait bien, c'est 1 demi de l'énergie cinétique dans un repère où le centre de gravité est fixé. Bien sûr, si vous êtes dans un repère galiléen où le centre de gravité se balade, il y aura en plus une énergie de translation qui va se rajouter à ça. Vous savez bien que si on est dans un repère galiléen où le centre de gravité est fixe pour le problème des deux corps, on a ça, par exemple, mais si le centre de gravité n'est pas fixe, on voit ça sur l'écran et on ne reconnaît plus nos ellipses. Parce que le centre de gravité peut avoir un mouvement de translation et ça donne de l'énergie cinétique. Donc ça, c'est l'énergie cinétique dans un repère lié au centre de gravité. Et c'est pareil, on peut l'écrire aussi sous cette forme en fonction des RI point, mon RJ point carré. Alors, une fois qu'on a ces trois fonctions invariantes de base, donc c'est les trois invariants de l'action des rotations, eh bien, j'écris les autres fonctions importantes. Donc, U, on l'a déjà écrit. Il y a le Lagrangien de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, c'est-à-dire plus U. Et puis il y a le Hamiltonien, qui est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire moins U. Alors j'aime mieux utiliser U, la quantité positive, que V, qui est l'énergie potentielle, parce que je m'intéresserai à la fin surtout au Lagrangien, et c'est bien agréable de voir tout de suite qu'il est positif, et de l'écrire comme ça. Voilà. Et puis il y a une autre chose que j'avais déjà écrite, que je réécris ici, et comme ça on aura toutes les fonctions importantes. C'est le moment cinétique et le bivecteur sigma de I égale 1 à 3, mais à N s'il y en a plus, de MI RI extérieur RI point. Alors, ça aussi, on peut l'écrire un peu conceptuellement en fonction de X et Y, mais je ne vais pas faire ça parce que ça introduirait des notations dont finalement je n'aurais pas besoin. Donc, je crois que je peux effacer tout ça maintenant. Alors maintenant, par exemple, je vais vous montrer, je vais dire autre chose. Non, je vais vous montrer tout de suite pourquoi cette écriture est vraiment très efficace avec le produit scalaire d'Elmas. Peut-être que je le mets en haut pour qu'on se rappelle ce que c'est. C'est vraiment un truc fondamental. Donc, x prime x seconde égale sigma de mi ri r prime r seconde i. Ça, c'est le produit scalaire dans R2 ou dans R3. Ben, on va montrer par exemple ce qu'on appelle l'identité de Lagrange Jacobi. En fait, il y a deux grands outils d'étude globale du problème des n corps qui sont l'identité de Lagrange Jacobi et l'inégalité de Zonman. Donc on va voir les deux maintenant. L'identité de Lagrange Jacobi, c'est quelque chose d'incroyablement important. Dans l'étude globale du problème, et en même temps c'est quelque chose de ridiculement simple, puisque ça consiste simplement à dire la chose suivante. Eh bien, je vais dériver deux fois i, c'est-à-dire le moment d'inertie par rapport au centre de gravité. Alors si je calcule i point, on a déjà vu que ça fait 2j, ça fait 2xy. Maintenant je calcule i seconde, et i seconde ça fait quoi? Ben, ça fait, bien sûr, peut-être que je devrais réécrire ici les équations de Newton-Lagrange. C'est x seconde égale gradient u de x, et qu'on ramène à un système du premier ordre, que je note souvent xh, ce champ de vecteur, un peu du Hamiltonien h, et x point égale y, et y point égale gradient u de x. Donc, y c'est x point. Donc, i seconde, ben, ça fait quoi? Ben, deux fois la dérivée de x scalaire y, ça fait, c'est la bilinéarité qui me permet de dériver comme ça, donc ça fait 2yy plus 2xy point. C'est-à-dire, deux fois k plus 2x scalaire gradient u de x. Y point, c'est i seconde, c'est le gradient u de x. Et alors maintenant, vient la troisième symétrie importante, qui est une symétrie un peu plus compliquée, que les gens n'ont pas toujours bien comprise, que les gens continuent à ne pas toujours bien comprendre, mais que Élie Cartan comprenait parfaitement bien. Si vous regardez le dernier chapitre de son livre sur les invariants intégraux, c'est quoi, 1922, il y a un chapitre sur le problème des trois corps, où il écrit toutes les symétries du problème des trois corps. Il les écrit en termes de formes différentielles, je les écrirai un peu différemment, mais il y a vraiment cette symétrie d'homothétie qui vient de l'invariance de l'homogénéité du potentiel newtonien. Et c'est la relation de l'air. U, c'est homogène de degré moins 1 en les x, en les positions. Hein, c'est des 1 sur r. Donc, x scalaire gradient u, par l'identité de l'air, ça fait moins u. Et donc, vous avez c'est l'identité de l'air classique sur les fonctions homogènes. Et donc, vous avez cette identité de Lagrange Jacobi, qui est x seconde égale 2 fois k moins u. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, bien sûr, je ne dis pas que c'est difficile de l'obtenir directement en écrivant le moment d'inertie et en dérivant. Simplement, on a 36 chances de se tromper, alors que ici, c'est conceptuellement évident. On peut l'écrire encore autrement. On peut l'écrire égal, puisque j'ai h égale k sur 2 moins u. Donc, 2h égale... 2h plus 2u égale k. Donc si je remplace k par ça, je trouve 4h plus 2u. Je vais écrire aussi sous cette forme. 4h plus 2u, en utilisant l'énergie. Alors une remarque, si on avait ce qu'on appelle le potentiel de Jacobi, qui joue un rôle très particulier dans les potentiels ne dépendant que de la distance, en 1 sur r au lieu d'être en 1 sur r2, alors, on fait le calcul d'homogénéité, on aurait un 2 ici, et à cause de ce 2, il n'y aurait pas ce facteur. Et on aurait un truc remarquable, qui est que pour le potentiel de Jacobi, la dérivée seconde du moment d'inertie est constante. C'est-à-dire le moment d'inertie n'a pas le choix, c'est forcément une fonction quadratique du temps. Ce qui est tout à fait remarquable par rapport au problème de Newton. Bon. Alors ici, on voit déjà quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que si l'énergie est positive ou nulle, ça c'est strictement positif. Et donc, i seconde est positif, quel que soit le temps, si l'énergie est positive ou nulle. Ça joue le rôle de fonction de Lyapunov, I. Et donc, on en déduit immédiatement, sans rien faire, que si H est positif ou nul, eh bien, il n'y a pas de récurrence. Il n'y a pas de récurrence, car I seconde est toujours strictement positif. La dérivée seconde de l'inertie croît. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? L'inertie, elle peut tendre vers zéro comme ça, mais si jamais, elle, à un moment donné, elle se met à croître, eh bien, elle tend vers plus l'infini et la taille explose. C'est le mouvement parabolique, le mouvement hyperbolique pour le problème des deux corps, on sait bien que c'est ça. Il n'y a pas de récurrence en énergie plus grande ou égale à zéro. Donc voilà le premier résultat général, qui est pratiquement gratuit, qui vient juste du formalisme, qui vient de là. Alors bien sûr, en énergie négative, c'est beaucoup plus compliqué, et il y a une sorte d'ersatz de J, vous voyez, ce qui joue le rôle de fonction de Lyapunov, c'est-à-dire de fonction croissante le long des trajectoires, c'est pas I, mais c'est sa dérivée, c'est J, de J, puisque c'est la dérivée de J qui va être positive ou nulle, en énergie positive, et il y a quelque chose qui remplace J dans le cas où l'énergie est négative, qui est ce qu'on appelle la fonction de Zuckmann, qui bien sûr n'a pas de propriétés aussi belles, mais qui permet quand même de dire pas mal de choses, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer comment utiliser ce formalisme. Alors maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire, maintenant ce que je vais faire, c'est regarder ce que ça donne dans le cas du problème des deux corps. Finalement, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que une fois qu'on a écrit ça, eh bien, en gros, on a pratiquement, dans un certain sens en tout cas, intégré le problème des deux corps. Alors, il y a un calcul que j'aurais dû faire quand j'ai marqué mes dimensions au tableau et que je n'ai pas fait, j'aurais dû faire le cas de deux corps. Parce que dans le cas de deux corps, j'ai oublié de vous mettre ça en même temps au tableau. Sauf que je vais mettre ça. Si j'ai deux corps, ça c'est quoi les dimensions? Une fois que j'ai fixé le centre de gravité, c'est comme si j'en avais plus qu'un. Donc, suivant que je suis dans R2 ou dans R3, si je suis dans R2, une coordonnée de position, une coordonnée de vitesse, enfin deux coordonnées de position, deux coordonnées de vitesse, donc j'ai 4. Ici, j'ai trois coordonnées de position, trois coordonnées de vitesse. Ça vient avec le problème des deux corps, une fois que j'ai fixé le centre de gravité, c'est équivalent au problème d'un centre fixe. Donc j'ai un point dans le plan ou dans l'espace attiré par un centre fixe. Et bien, donc ça fait ça. Maintenant, si j'enlève l'énergie, ici ça fait 3, ici ça fait 5. Si je fixe le centre, disons que le moment cinétique soit non nul, si je fixe le moment cinétique et que je passe au quotient par les rotations, j'enlève 2, il me reste 1. Et ici, si je fixe le moment cinétique, ça fait 3. Et si je passe au quotient par les rotations autour du vecteur moment cinétique, ça fait 1 de plus, ça fait 4. Donc j'ai 5 moins 4 égale 1. Vous voyez que dans les deux cas, je me ramène à la dimension 1, c'est-à-dire que moralement, j'ai intégré mon problème, je ne veux plus que les trajectoires. Donc c'est simplement les symétries qui font que le problème des deux corps est intégrable. Et en fait, il est même super intégrable, dans le sens où il y a une intégrale supplémentaire qu'on ne voit pas ici parce qu'on a fait la réduction par les rotations, qui est l'intégrale de Laplace, qui dit que toutes les orbites en énergie négative sont fermées et n'ont pas de précession, ce qui est complètement faux pour les autres potentiels qui ne dépendent que de la distance. Et c'est même cette super intégrabilité, en quelque sorte, du problème de Kepler qui fait que la mécanique céleste est si difficile, parce que, essentiellement, quand on réécrit les choses d'une bonne façon, le problème de Kepler, comme toutes les orbites sont périodiques, de même période, en énergie négative fixée, si vous prenez une surface de section, ben, essentiellement, vous ramenez à l'identité, et la mécanique céleste, ça consiste à perturber l'identité. Alors, on comprend que c'est compliqué, hein, c'est l'application qui est la plus difficile à perturber. Donc il faut forcément aller voir dans les termes non linéaires, à l'ordre suivant, ce que donnent les perturbations, faire la théorie des perturbations séculaires de Lagrange et Laplace. Et finalement, tous les problèmes de type avec potentiel en 1 sur R puissance alpha, qui ne sont pas 1 sur R ou l'oscillateur harmonique R2, sont beaucoup plus simples finalement que le problème de Kepler, parce qu'il n'y a pas cette intégrale de la place supplémentaire qui dit que les orbites sont fermées, et pour les autres potentiels, les orbites sont de la pression.